du groupe Banque Centrale Populaire vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. RFI vous permet ce matin de poser vos questions à Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias de la République démocratique du Congo, porte-parole du gouvernement. Durant les 20 prochaines minutes, nous évoquerons les trois grands sujets qui font l'actualité en RDC, la situation sécuritaire dans l'Est et les tensions de plus en plus vives avec le voisin rwandais, l'arrivée ce matin du cercueil de Patrice Lumumba et les retombées de la récente visite du roi des Belges en RDC. Émission spéciale que vous pouvez également suivre en ce moment en images sur la page Facebook RFI Appel sur l'actualité. Bonjour Patrick Mouyaya.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs.
Merci monsieur le ministre d'accepter de dialoguer en direct avec les auditeurs de RFI. Je précise que demain à cette heure-ci, c'est le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais Alain Mukuralinda qui répondra aux questions des auditeurs, notamment sur les tensions avec votre pays, la RDC, des tensions depuis que les attaques des rebelles du M23 se sont multipliées dans l'est de la RDC. Votre pays, monsieur le ministre, accuse le Rwanda non seulement de soutenir la rébellion, mais aussi d'avoir déployé sur le terrain, sur le territoire congolais, des soldats rwandais aux côtés des rebelles. Incontestablement, c'est le sujet qui suscite le plus de réactions, aussi bien au standard que sur nos réseaux sociaux. Je vous propose donc, monsieur le ministre, de passer tout de suite au standard pour donner la parole à un premier auditeur. Bonjour Fred.
Bonjour Juan.
Merci de nous appeler de Brazzaville. Nous vous écoutons avec le ministre Patrick Mouyaya.
Le gouvernement congolais accuse nommément le Rwanda de soutenir le M23, alors que le Rwanda nie toute implication. Monsieur le ministre, de quelles preuves dispose le gouvernement ?
Patrick Mouyaya, de quelles preuves disposez-vous pour accuser le Rwanda ?
Mais des soldats rwandais, tout le monde a vu les deux militaires de forces spéciales rwandaises qui ont été arrêtés en République démocratique du Congo. Vous les avez vus avec leur tenue ainsi que leurs munitions. Et puisqu'il existe un mécanisme conjoint de vérification, à travers ces mécanismes, ces militaires ont toute liberté interrogés. Ils ont dit qu'ils étaient en opération spéciale en République démocratique du Congo. Ils devaient attaquer le camp militaire de Rumangabo. Ils ont été défaits dans leur tentative par nos forces armées et ils se sont perdus 25 km loin de la frontière. Et vous avez vu que le Rwanda a, dans un communiqué, reconnu que c'était ses militaires. Et le président Tshisekedi, après avoir rencontré le président Lorenzo de l'Angola, oui, a pris la décision de rendre ses militaires, bien au-delà de ce qui est apparu comme né sur le visage, parce que c'est imparable. Vous savez tous que nous ne sommes pas belliqueux pour traverser la frontière et aller prendre les militaires rwandais. Mais il existe aujourd'hui des images, des drones, et je souhaiterais vivement que la MONUSCO sorte de son silence et de son administration pour qu'elle soit en mesure de dire comment. Et cela sera en mémoire aussi de 8 casques bleus qui ont été tués parce que leur hélicoptère a été bombardé par la M23. Au moment où je vous parle, il y a deux jours, la MONUSCO, les casques bleus de la MONUSCO ont encore essuyé des obus et ils disent que le matériel utilisé par la M23, qui, je dois le rappeler, est un mouvement défait depuis 2013 et désarmé, est un matériel sophistiqué, des matériels de vision nocturne.
C'est-à-dire que le M23, en tant que mouvement rebelle, ne peut pas disposer d'un tel arsenal sans l'appui d'un pays.
C'est tellement évident que cela apparaît comme né sur les visages et qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer à nous mentir. Parce que c'était, il y a quelques années, c'était la même rhétorique. C'est pas nous. Mais après, quand on regarde sur le terrain, les faits attestent du contraire et tout le monde le sait. Et la MONUSCO, j'espère qu'elle pourra s'exprimer de manière claire à ces sujets pour que tout le monde puisse en être édifié.
La MONUSCO qui, la semaine dernière, disait ne pas avoir observé de troupes rwandaises ni dans les rangs du M23, ni sur le territoire.
C'était une déclaration maladroite. J'espère que madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies les dira dans le jour qui vient. Parce que le numéro 2 de la force commandaire de la MONUSCO avait déclaré le jour où on célébrait les casques bleus qui avaient des matériels sophistiqués qui étaient utilisés par l'M23. Je peux comprendre qu'ils se disent que ce n'est pas eux à Kinshasa qui doivent le dire. Il y a une commission d'experts qui doit, qui est commission des sanctions, qui doit faire rapport au Conseil de sécurité. Tout ça est bien long. Et je comprends pourquoi, dans les années antérieures, il y avait toujours cette colère de la population vis-à-vis de la MONUSCO qui ne se montre pas très prompte à dénoncer le mal lorsque le mal est fait, et surtout, en l'occurrence, la présence de troupes rwandaises aux côtés du M23.
Monsieur le ministre, Kigali dément toutes ces accusations. Kigali vous accuse la RDC de collaborer avec les rebelles Hutus FDLR.
Démentir, c'est les langages habituels. Mais parce que vous parlez des rebelles Hutus FDLR, nous, République démocratique du Congo, on en a assez d'épais le prix des conséquences du génocide. Tout ceci arrive parce que nous avons été très hospitaliers, que nous avions ouvert nos frontières à 94. Et depuis, notre malheur a commencé. Parce que le Rwanda, depuis 97, par exemple, avec les mouvements de l'AFDL, a dirigé l'armée congolaise à travers James Kabarebe. Ils avaient en ce moment-là l'occasion de régler le problème. En 98, plus tard, une rébellion éclate et il y a les RCD. Les RCD qui étaient dirigés par Kigali, ils ont eu tout le temps matériel de combattre ces FDLR. Au-delà de ça, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale en 2009, a perdu son poste parce que le président Kabila avait discuté des opérations conjointes. Vous voyez que depuis toutes ces années, Nous payons les prix le plus fort de la présence des FDLR sur nos territoires et nos forces armées les ont combattus. On n'arrête pas de les combattre. Aujourd'hui, les FDLR, si ça subsiste, je ne pense pas que ces mouvements subsistent au point de poser des problèmes de sécurité au gouvernement rwandais pour qu'il justifie une nouvelle invasion à travers
l'M23. Donc, ils ne représentent plus à l'heure actuelle une menace pour le Rwanda. Je tiens à préciser que la MONUSCO a, elle aussi, démenti la semaine dernière les accusations des autorités rwandaises vous concernant. Elle affirme que les troupes congolaises ne sont pas en collusion avec ces rebelles.
Mais ce qui est bien dommage, Juan, un dernier commentaire sur ce sujet. Ce qui est bien dommage, c'est que depuis l'arrivée aux responsabilités du président Tshisekedi, nous avons mis en place des mécanismes qui nous permettaient, y compris avec les Rwandais, de discuter de ces sujets et de trouver des solutions.
Les relations se sont réchauffées.
C'est bien dommage que nous puissions sortir de cadre que nous avions établi pour aller sur des considérations de ce genre aujourd'hui. Mais bon, malheureusement.
Torcelli nous appelle de Kolwezi. Bonjour Torcelli, soyez le bienvenu. Ah, alors on entend les klaxons, mais on n'entend pas la voix de Torcelli. Êtes-vous là ?
Oui, alors.
On vous écoute avec monsieur le ministre.
Bonjour.
Bonjour.
En fait, je sais que notre pays est bel et bien et par ce groupe armé. En fait, je voulais poser la question, monsieur le ministre. Est-ce que la guerre est inévitable ?
Une guerre est-elle inévitable à l'heure actuelle, monsieur le ministre, avec le Rwanda, ou la diplomatie a-t-elle encore sa place ?
Nous, on considère que nous ne sommes pas en guerre, nous défendons nos territoires parce que nous ne sommes pas belliqueux, nous n'avons pas traversé nos frontières et commencé à poser des problèmes. Je dois rappeler ici que les bombardements rwandais ont tué des enfants de 6-7 ans. Des écoles ont été touchées, des milliers de femmes ne sont plus dans leur logis parce que simplement il faut fuir. Et ça fait 25 ans que ça dure, c'est anormal et tout ça doit s'arrêter. Nous étions pourtant engagés dans un processus qui nous avait donné une vue sur la fin de toutes ces questions d'insécurité. Notre adhésion à la communauté de l'Afrique de l'Est le 8 avril avait ouvert cette brèche. Nous étions déjà à table en train de discuter des questions avec tous les pays voisins. C'est tout à fait incompréhensible de voir que le Rwanda puisse retourner sur la rhétorique et sur le terrain de la guerre sous prétexte qu'il y a des opérations menées chez nous, des bombes sont tombées chez eux pour envahir de nouveau la République démocratique du Congo. C'est bien dommage, mais nous pensons, et vous avez vu le dernier conclave qui s'est tenu à Nairobi, que les discussions sur ces points de vue continuent aussi, et nous espérons que très vite les désarmements ou le retrait de troupes rwandaises, le retrait du soutien en M23 s'effraie, qui quitterait les localités occupées injustement depuis quelques jours.
Pour l'instant, la RDC se contente de sanctions. Est-ce que vous envisagez de passer à l'étape supérieure ?
Évidemment.
Nombreuses voix appellent à l'expulsion de l'ambassadeur rwandais.
Mais lorsque vous avez un voisin qui est belliqueux, parce que nous, on terme de paix, c'est le choix que nous avons fait parce que les populations rwandaises et les populations congolaises échangent beaucoup déjà. Il faut le rappeler que la frontière RDC-Rwanda, c'est l'une des frontières les plus fréquentées au monde. Et donc, le président de la République a donné un signe de bonne foi en rendant les militaires rwandais qui ont été arrêtés chez nous. Et donc, aujourd'hui, nous considérons que nous sommes à des stades des négociations ou des discussions qui font que si les amis ne se montrent pas ouverts et disposés à aller avec nous vers la conclusion à la table des négociations, nous prendrons des mesures qui iront jusqu'à l'expulsion de l'ambassadeur. On ne peut pas exclure cette possibilité si les amis ne font pas le choix de la paix.
Et rupture des relations diplomatiques, donc.
Mais si c'est une des conséquences, nous y arriverons.
Monsieur le ministre, on repasse au standard. 33 9 693 693 70. Bonjour Guilin. Guilin, à Kinshasa, est-ce que vous m'entendez ? Alors, visiblement, on a perdu Guilin. Avons-nous Youssouf ? Youssouf ?
Ah. Oui, monsieur Rouen, je suis là.
Qui êtes-vous ? Youssouf ou Guilin ? Youssouf.
Youssouf.
À Bukavu, soyez le bienvenu. Nous vous écoutons avec le ministre Patrick Muyaya.
Merci beaucoup, monsieur Rouen. Bonjour, monsieur le ministre.
Bonjour.
J'ai des petites préoccupations. Premièrement, j'aimerais bien savoir pourquoi le budget alloué à la défense est si faible par rapport à d'autres secteurs. Et deuxièmement, pourquoi la RDC doit toujours s'appuyer aux forces étrangères pour régler ses propres problèmes au lieu de mieux former nos militaires?
Alors, le budget alloué à la défense, donc à l'armée, est-il suffisant, monsieur le ministre?
Je dirais que le budget alloué à l'armée par rapport à la dimension du pays n'est pas assez, mais il faut regarder d'où nous venons et les conditions économiques dans lesquelles le pays évolue. Mais avec le président Tshisekedi, nous avons récemment adopté un budget programme qui sera un budget pluriannuel et dorénavant, on investira à peu près 1 milliard de dollars l'an pour l'armée, ce qui n'est pas assez pour un pays qui a 9 voisins, qui a autant des milliers de kilomètres de frontières, mais nous ferons davantage. Pourquoi recourir aux armées étrangères ? Évidemment, c'est un choix difficile, mais il ne faut pas qu'on se trompe au regard du diagnostic que le président a trouvé, notamment pour ce qui concerne les capacités opérationnelles. Nous avons des capacités opérationnelles qui sont en place, mais au regard des questions transversales, parce que les questions sécuritaires qu'on aborde, c'est le terrorisme, des ADF qui sont essentiellement venus de l'Ouganda. C'est une question que nous devons gérer avec eux. Les FDLR qui sont venus du Rwanda, c'est des questions que nous devons gérer avec eux. Le Red Tabara qui sont devenus du Burundi, c'est des questions que nous devons gérer avec eux. Pourquoi avoir fait ces choix difficiles? Mais simplement parce que nous estimons que nous devons, dans un temps relativement court, pouvoir ensemble régler les problèmes. C'est pour ça qu'il y a à Nairobi un pan politique où le président Uhuru, comme le président Tshisekedi, ont eu l'occasion de discuter avec les groupes armés les conditions de leur reddition. Et ceux qui seront réfractaires à ces processus, ce seront ceux qui subiront justement la foudre de cette force.
Monsieur le ministre, vous parlez de Nairobi. Il y a eu un sommet en début de semaine réunissant les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est. Ils étaient quasiment tous là. En tout cas, il y en avait un qui était là. C'était le président Paul Kagame. Est-ce à dire que cette force régionale qui va voir le jour très prochainement sera notamment formée d'éléments de l'armée rwandaise?
Totalement non. Nous disons non parce que le Rwanda pose problème. Vous savez que nous avons une opinion publique qui est traumatisée par l'attitude Rwanda. Je vous ai parlé de ces 25 dernières années. Nous ne pouvons pas faire le choix d'accepter encore de troupes rwandaises qui soutiennent des groupes terroristes que nous ne cautionnons pas. Il est hors des questions que le Rwanda fasse partie de cette force, en tout cas pas celles qui seront déployées en République démocratique du Congo.
Et accepter le déploiement de cette force régionale, est-ce que ce n'est pas finalement reconnaître l'échec de l'état de siège que vous avez mis en place, que vous avez instauré depuis un an?
Je crois que tout dépend du prisme dans lequel vous regardez la question. Il ne faut pas oublier que les problèmes sécuritaires dans l'Est durent depuis 25 ans et c'est du fait justement de l'attitude de beaucoup de pays voisins. Aujourd'hui, nous voulons les avoir comme partie prenante aux solutions parce que j'ai expliqué tout à l'heure que la plupart des sources de l'insécurité viennent d'ailleurs. Les ADF, les FDLR dont on parle, qui font plus de victimes au Congo qu'au Rwanda d'ailleurs, et les Red Tabara qui viennent du Burundi. Et donc, dans cette approche régionale, nous pensons que nous aurons mis nos partenaires en confiance et qu'ensemble, on aura réglé les problèmes pour finalement aller vers l'économie qui est plus utile pour nos différentes populations.
Darly souhaite vous interpeller, monsieur le ministre, sur le cercueil comportant la dent de Patrice Lumumba qui arrive dans les prochaines minutes ou les prochaines heures à Kinshasa. Mais d'abord, Jean-Pierre. Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs d'RFI et bonjour à monsieur le ministre.
Vous revenez sur la première visite officielle du roi Philippe II, c'était il y a moins de deux semaines en République démocratique du Congo.
Justement Juan, le peuple congolais en général et moi en particulier avons été déçus du fait que le roi de Belge n'ait pas présenté ses excuses au peuple congolais lors de son passage ici à Kinshasa. Il a plutôt parlé des regrets. Et à notre grande surprise, c'est le premier ministre belge, lors de la remise de la relique de Lumumba, qui parlera des excuses. Alors, je voudrais demander à M. le ministre, lui, en tant que Congolais, est-ce que a-t-il été aussi déçu et quel sera la suite par rapport à ça.
C'était une visite, faut-il le rappeler, sur fond de travail de mémoire et de réconciliation avec, entre la Belgique et son ancienne colonie. Effectivement, tout le monde s'attendait à des excuses de la part du roi. Il y a eu une nouvelle fois des regrets, mais pas d'excuses. Avez-vous, comme notre auditeur et comme beaucoup de Congolais, été déçu?
Déçu, je dirais non, parce que nous regardons la chose peut-être sous pas le même prisme. Ici, il faut reconnaître que nous sommes dans un processus. Il ne faut pas oublier qu'il y a une commission parlementaire en Belgique qui suit la question de près sur la colonisation, qui en évaluera les conséquences, parce que excuse signifiera réparation. Et en ce moment-là, on verra. Mais ici, il faut saluer d'abord la visite historique. Elle a duré 6 jours. Et le roi est venu où il a reconnu en des termes clairs le caractère d'exploitation du régime colonial, le caractère raciste, les caractères inhumains. Je pense qu'en termes des rhétoriques, eux et nous sommes sur la même longueur d'onde. Je pense plutôt que du côté belge, il y a peut-être des procédures administratives, mais les pardons devraient arriver, comme cela est arrivé pour Lumumba. Nous pensons que si nous voulons regarder l'avenir ensemble, nous devons être en mesure de nous regarder franchement dans ce qui s'est passé, de regrets, des réparations, pour voir comment on consolide les rapports entre les deux États.
Les excuses lundi du Premier ministre belge concernant Patrice Lumumba, elles sont évidemment les bienvenues.
Elles sont arrivées trop tard, il l'a reconnu lui-même d'ailleurs, le Premier ministre belge, mais nous apprécions ce courage politique qui nous permet de commencer à regarder, à scruter l'avenir différemment.
Et maintenant, justement, comment vous envisagez cet avenir avec la Belgique?
Mais dans un rapport de respect d'abord, parce qu'on n'est plus dans des considérations de condescendance de l'époque, mais aussi de regarder les rôles que la République démocratique du Congo doit jouer sur le continent africain ou la Belgique en Europe, comme le disait Léopold II. Mais aussi, cette visite du roi a permis de rappeler que la Belgique, autant que tout le pays du monde tienne au respect de l'intégrité, de la souveraineté de la République démocratique du Congo, nous avons été très marqués de voir que le roi a tenu à faire le tour un peu du pays, aller jusqu'à Bukavu, voir ces femmes violées, victimes de ces années des barbaries et des violences dans la région. C'était une belle expression de solidarité. Au-delà de cette expression de solidarité, nous espérons que le monde va se mobiliser pour que finalement, dans cette partie de l'Afrique, dans cette partie de notre pays, la paix puisse revenir et que nous puissions véritablement entrer dans le tournant du développement où la Belgique, comme la France d'ailleurs, pourront trouver leur place.
On voit que les récentes tensions avec le Rwanda ont ravivé les messages de haine contre les communautés rwandophones dans votre pays, la RDC. Sur les réseaux sociaux, il y a de nombreux messages appelant à la violence.
Mais je crois que Rouen, il faut prendre les choses à leur mesure. Il n'y a pas de nombreux messages de réseaux sociaux. Il faut regarder la proportion de la population congolaise, 100 millions d'habitants. Il y a eu des cas à gauche, à droite, il ne faut pas tomber dans la généralisation parce que ça, c'est justement le langage de ceux qui crient au génocide. Les Congolais est un peuple hospitalier qui ne verse jamais dans la violence. Le vrai problème aujourd'hui au Rwanda, c'est la présence des terroristes du M23 et les soutiens du Rwanda. C'est eux qui touchent à nos écoles, c'est eux qui touchent à nos enfants, c'est eux qui déplacent nos femmes. Et donc, les Congolais sont animés évidemment d'un sentiment de colère et on ne peut pas pour 2-3 cas, évidemment, des dérapages que nous avons du reste condamnés. D'ailleurs, la police va présenter des membres, d'ailleurs, certains du parti de l'UDPS qui se sont montrés particulièrement virulents, ils seront jugés et condamnés. Et donc, nous prenons en charge cette question parce que nous vivons un peu avec nos communautés, mais toute l'énergie que je vois mettre beaucoup des représentants de la communauté internationale pour raviver un problème qui n'en est pas un, devrait mettre cette énergie pour régler définitivement le problème de la sécurité à l'Est pour que finalement, nous puissions vivre en paix dans notre propre pays.
Vous faites partie de ces nombreux Congolais qui, dans cette émission, regrettent un peu le deux poids, deux mesures, une communauté internationale qui ne s'intéresse en ce moment qu'à l'Ukraine et qui finalement
ferme les yeux. Mais il y a beaucoup de regrets parce qu'il y a eu beaucoup de solidarité vis-à-vis du Rwanda par rapport au génocide. Nous-mêmes, nous avons été solidaires et nous en payons le prix aujourd'hui fort malheureusement. Mais les milliers, le million de morts congolaises méritent une plus grande attention et nous espérons que la communauté internationale sortira de ces deux poids et deux mesures.
Merci infiniment Patrick Mouyaya d'avoir été en direct dans nos studios et d'avoir répondu à quelques-uns des très nombreux auditeurs qui souhaitaient dialoguer avec vous ce matin. On marque une pause 10 minutes et juste après le journal, on parlera de la tension de plus en plus vive au Sénégal entre l'opposition et le pouvoir. À tout de suite.